Aujourd'hui, nous invitons Jacques Colomba. Merci d'être venu. Tu viens de sortir, début 2012, un livre qui s'appelle Alexandre Marius Jacob, Le forçat intraitable, avec une préface de Lucio Urtubia, qui t'a précédé ici à la même place, à la Bibliothèque sociale. C'est dire si on reçoit que des gens bien, on reçoit que des gens bien. Voilà, donc, qu'est-ce qui t'a pris de vouloir nous parler d'Alexandre Marius Jacob? Et d'abord, qui c'est, Alexandre Marius Jacob?
Moi, je voudrais d'abord savoir qui a lu le bouquin ou non, parce que je ne vais pas. Je vais pas y en a, oui, bon, bah, c'est épatant, parce que vous n'avez pas tous lu. Alors, je vais pouvoir raconter quelques petites choses. Je suis désolé hein, pour ceux qui l'ont lu, mais comme ça, je pourrais raconter un peu la vie de Jacob. Sinon, je vais être obligé de raconter la mienne, qui est passionnante, mais enfin, que ça peut aussi peut-être vous lasser.
Bon, elle est
Alors.
mêlée, puisque vu les dessins qu'il y a dedans, c'est un peu
Oui, il y a
entremêlé.
des dessins dedans
Oui,
que vous
oui.
feuilleterez.
Et qui est-ce qui les a dessinés?
Oui, c'est ça.
Ouais.
Il se moque de moi, c'est moi qui fais les dessins.
Voilà.
C'est plutôt mon boulot de faire
Voilà.
les dessins. D'où je sors? Alors, ça va être juste une courte parenthèse, mais pour expliquer un petit peu pour en arriver là. J'ai fait des études. C'est pas ça, ça marche pas.
Si, mais il faut parler dedans.
Il faut parler dedans plus près, comme ça, c'est
Comme ça.
bon? Ah, c'est bon, d'accord, pardon, merci. Donc, j'ai appris un petit peu à dessiner à l'École des Arts Appliqués. Et puis, j'ai rencontré Paul Grimaud, l'auteur du Roi et l'Oiseau, qui est venu présenter ses films à l'école. Et je suis reparti sur son strapontin, sur son porte-bagages. Et j'ai quitté l'école et j'ai travaillé 10-15 ans avec lui. Et il a produit mes premiers films. Donc, moi, mon boulot principal, ce que j'ai fait dans la vie, c'est plutôt du dessin animé. Hein. J'ai fait 5-6 courts-métrages, j'ai fait un long-métrage, j'ai fait une série d'après les contes du Chat-Perché de Marcel Aimé. J'ai essayé de m'amuser toujours constamment dans la vie. Hein. Voilà, je crois que de ce côté-là, ça va à peu près. Et puis, donc, j'ai fait quelques films avec acteurs, mais des courts-métrages. Et j'avais l'intention de faire un film sur cet Alexandre Marius Jacob. Donc j'ai écrit, un producteur était d'accord, il m'a commandé le scénario, j'en ai fait trois versions, ça lui convenait, mais il n'a pas réussi à monter financièrement l'affaire. Hein, c'est bon, c'est pas mon problème, c'était le sien, mais bon. Et puis ce scénario est arrivé sur le bureau d'un éditeur qui m'a appelé. En disant, je sais que vous avez des difficultés à monter votre film, mais si vous voulez en faire un bouquin, moi je suis partant. J'ai dit, bah, écoutez, oui, moi ça me ferait plaisir, mais il y a pas mal d'indications de mise en scène hein, dans le bouquin. Il dit, bah, vous arrangez, vous enlevez ça, et puis voilà pourquoi cette chose-là existe. Et effectivement, ça m'a amusé, ça m'a intéressé de faire une vingaine de dessins hein, pour le bagne, ça s'y prête. On a quelques photos de Jacob, mais on n'en a pas beaucoup, hein, on a moins d'une dizaine. Mais il avait une très bonne tête, c'était un beau jeune homme. Et puis sa vie, lui n'est pas du tout un esprit romantique, mais sa vie, ce qu'il a vécu, c'est très étonnant, c'est très romantique. Hein. Sa fin, on n'en est pas encore là, mais sa fin est bouleversante. Il y a même des femmes qui ont été suffisamment aimables pour me dire qu'elles avaient pleuré à la fin du livre. J'y suis pour rien. C'est la vie de Jacob qui Alors, comment ça s'est fait? Puis après, je répondrai à tes questions. Comment ça s'est fait? Il existe trois bouquins
Alors,
sur le sujet.
on
Hein.
va commencer.
Je parle trop. Il y en a un qui est un peu moins sérieux. C'est le bouquin fait par Bernard Thomas du Canard Enchaîné, qui a cassé sa pipe il y a 2 mois à peu près. J'ai fait remarquer à mon éditeur que j'étais d'une élégance extrême, puisque le bouquin est paru 8 jours après la mort de Bernard Thomas. Donc il n'a pas su qu'il y avait un autre Jacob qui allait paraître. Les deux autres, c'est le gros bouquin. Alors ça, c'est le premier bouquin, un anarchiste de la Belle Époque, Alexandre Jacob, c'est le seul bouquin que Jacob ait pu relire. Alain Sergent était un de ses contemporains, il lui a apporté le bouquin. Donc, je pense qu'à l'intérieur, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de bêtise, c'est bien fichu.
Donc, ce livre-là vient d'être réédité, en 2005, c'est exactement le même. Donc, il est disponible aux éditions Libertaires pour la modique somme de 12 euros. Et vous avez la chance de l'avoir... sur la table de... Et je voulais dire aussi, par rapport à Thomas, il y en avait un deuxième de livre, c'est la réédition de celui-là.
C'est le même.
C'est sous deux formes différentes.
Oui.
Et ensuite, on a eu donc aussi celui de Caruchet.
L'anarchiste cambrioleur.
Ouais. C'est il avait déjà écrit sur la bande à Bono.
Oui, absolument.
Voilà.
Il y a une thèse qui s'appelle L'honnête cambrioleur.
Ouais, qui est pas là.
Ouais. Et celui-ci qui est la Bible, mais là il est en deux volumes. Ouais. Après il a été réédité en un seul volume. Vous l'avez là.
Voilà.
Jacob les écrits.
Alors celui-là.
Voilà.
Alors. C'est une édition revue et corrigée. Et entre les deux, il y avait donc, parce qu'il a été épuisé très rapidement. Hein. Il y a eu trois tirages quand il était en deux volumes. Bon, ce qui est quand même pour un livre, une biographie quasiment, hein, parce que bon, c'était beaucoup de lettres, etc. Et après ces trois tirages-là, cinq ans après, il n'était plus disponible. Donc, ils ont décidé de le ressortir, de faire des extraits. Donc, ça a donné ces trois petits livres-là. Hein, Les Travailleurs de la nuit, je crois. L'extermination à la française. Et puis, Abat les prisons, toutes les prisons. Et c'est seulement après, puisque quand il a été contacté, il a décidé de refaire une édition revue et augmentée. Donc le pavé, là, à chaque fois, il y a deux CD dedans. Hein, et donc des chansons anarchistes de l'époque. Et voilà, ça... Voilà, en tout cas, bon, Jacob, grosso modo... ça occupe quand même. Hein,
oui, alors moi, si je vous parle de tout ça, c'est parce que, bien sûr, je me suis servi entièrement de ces trois bouquins, surtout, hein, ceux qui me paraissaient les plus sérieux. Moi, j'ai mis un peu de poil autour, si on veut, un peu de liant, un peu de... Mais il y a beaucoup, beaucoup, dans le bouquin qui fait 800 pages, les écrits, en grande partie, ce sont les lettres qu'il échangeait avec sa mère. Alors on n'a pas, ou très peu, les lettres de la mère, les réponses, mais on a pratiquement tout le courrier qu'il envoyait du bagne. Il avait droit qu'à une lettre par mois, mais il se débrouillait par des combines personnelles, certainement des combines diverses, à écrire bien davantage. Hein. Et avec ses écrits, on sait quand même, on cerne quand même pas mal la personnalité et ce qu'il a vécu au bagne. Alors donc je me suis tout simplement, j'ai pas inventé des lettres, bien entendu que non. J'étais très respectueux et j'ai choisi quelque chose qui me paraissait intéressant pour que l'histoire avance, pour que ça progresse, puisqu'encore une fois c'était au départ un scénario. Et voilà. Donc c'est né comme ça, cette aventure-là. Est-ce que je vais commencer à répondre un petit peu à quelque chose ?
Oui, oui. Peut-être on va présenter un petit peu qui était cet étrange personnage. Quand même, bon, si on résume, 156 cambriolages.
Oui, en 3 ans, puisqu'il a été... on lui a mis la main au collet au bout de 3 ans. Alors, il a commencé... Aussi, sa première action, pour ceux qui n'ont pas lu, est quand même très plaisante. Je crois qu'il avait 19 ans. Et ils ont su qu'au Mont-de-Piété de Marseille, il est marseillais, hein, Jacob, voilà, Marius, pardon, Jacob, il est marseillais. Ils ont su par certainement un copain qui a fait de la tôle, qu'il y avait une montre qui était au Mont-de-Piété et qui était, c'était du recel, hein, ça sortait d'un vol. Donc ils ont dit, tiens, c'est peut-être une idée, on va aller visiter le Mont-de-Piété en leur demandant de voir un peu la comptabilité ou comment ça se passe, etc. Donc il a déguisé son papa avec une écharpe tricolore, un mandat de perquisition, faux bien entendu. Lui, il avait 19 ans, et puis un copain qui faisait secrétaire, lui était assistant, et puis il y avait donc l'homme à l'écharpe tricolore. Et ils ont inventorié, donc le gars du Mont-de-Piété avec son assistant, il était vraiment très troublé. Et ils ont fait, on va faire l'inventaire avec une liste précise. Hein. Ah, on vous demandera de signer cette liste, on la signera nous-mêmes également, et on fait l'inventaire de la totalité. Ils mettaient tout ça dans des sacs à chaque fois.
Voilà. Et là, ils ont fermé l'officine pour leur permettre d'opérer.
Bien sûr. Après, bien entendu, il faudra. On va vous mener au palais de justice. Vous serez reçu par Monsieur le procureur, qui aura certainement des questions intéressantes à vous poser. Et voilà. Donc, ils ont fait tout ça. Ils étaient en deux voitures. Hein. Ils ont dit surtout au gars du Mont-de-Piété, vous mettez cette liste au coffre. Hein. C'est la justification. De notre opération. Ils ont mis ça au coffre très sérieusement. Et dans la première voiture, ils ont mis le gars du Mont-de-Piété et son assistant, que Jacob, là, c'était lui qui l'a amené, qui les a amenés au palais de justice, devant le bureau du procureur. L'autre voiture, où il y avait tout le butin, était ailleurs. Et Jacob est entré, il les a fait asseoir dans le couloir en face du bureau du procureur. Jacob est rentré chez le procureur, il a dû lui dire « Oh, excusez-moi, ou quelle heure est-il » ou je ne sais quoi. Il est ressorti tout de suite en disant « Le procureur va vous recevoir. Hein.
Et il
s'en
va.
N'essayez pas de vous échapper, vous êtes au palais de justice, ça serait ridicule. » Et lui s'en va, il va retrouver ses copains où il y a la voiture et le butin, et ils partent directement pour Barcelone. C'est quand même, il a 19 ans, c'est un assez joli coup. Les deux zozos restent sur le banc, bien sûr, ils ne voient pas la couleur du procureur. Et sur le coup de 11 heures, il y a le concierge qui fait le tour, qui éteint les lumières, qui trouve ces deux oiseaux-là. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites là? On attend le procureur. Il dit, mais le procureur est parti depuis très longtemps, voyons. Qu'est-ce que je vais faire ça? Et le concierge trouve un juge qui travaille encore sur des dossiers. Alors il amène le juge. Les gars s'expliquent, c'est incohérent. Pour le juge ne connaît rien de l'affaire. Il dit, bon, on va déjà les mettre au dépôt. C'est-à-dire, il les met sous les verrous pour la nuit. Et en plus, au lendemain matin, il les avait oubliés. Le juge, il s'occupait d'autre chose. Ça. Mais il dit, on a, sur le coup de midi ou une heure d'après, on a nos deux oiseaux qui sont au dépôt, là. Alors, ils vont les sortir. Bien sûr, on découvre le poteau rose assez rapidement. Ça paraît dans la presse, tout Marseille éclate de rire, puis après toute la France éclate de rire. Ce sont les débuts de Monsieur Marius Jacob. C'est quand même assez élégant, non? Hein, il est fortiche, le Jacob.
Oui, mais c'est quelqu'un qui sortait des phrases comme je préfère être voleur que d'être volé.
Il s'en explique très bien. À la fin de son procès, il tient le... Alors donc, il a... quelqu'un de sa famille, je ne sais pas, un cousin ou autre, qui est anarchiste, qui l'amène dans les réunions anarchistes. Il est jeune, il trouve ça vraiment absolument épatant. Il se fait bien sûr rouler dans la farine au tout début, c'est-à-dire qu'il veut essayer de fabriquer un engin explosif et il ne se rend pas compte que la personne qui lui donne le matériel pour faire l'engin, c'est un flic. Donc immédiatement, il est étiqueté, etc. Il est jeune, alors... Mais, il ne peut plus travailler. À chaque fois qu'il est embauché par quelqu'un, les flics vont dire, vous savez, c'est un dangereux anarchiste, hein, etc. Donc, ça l'énerve un peu. Et pour aider les anarchistes, c'est-à-dire la presse anarchiste, les gens qui sont en tôle, etc., les gens qui sont dans le besoin, ils pensent monter une affaire. La base est assez simple et assez connue. Hein, ce sont les pieds nickelés. C'est-à-dire, on prend l'argent où il est, c'est-à-dire aux riches, et... On distribue ça pour les copains, etc. Donc, il monte une affaire qu'il appelle les travailleurs de la nuit. Hein, et c'est là où il a fait, avant de se faire prendre, il a à son actif 150 cambriolages.
Mais il était, lui, pour une révolution par l'éventrement des coffres-forts. Il faut prendre l'argent où il est.
Oui, pour les coffres-forts, il avait une idée qui était très, très sympathique. Il avait une maman qui était également anarchiste, qui était une sainte femme pendant tout le temps où il est au bagne. Elle remue ciel et terre pour essayer de le faire sortir de là. Et alors, il avait acheté une quincaillerie à Montpellier. C'était simplement une couverture pour pouvoir acheter tous les coffres
qui existaient
en France. Et dans l'arrière-boutique, il étudiait. Hein, il étudiait comment ça fonctionnait. Un coffre-fort, c'est pas très si compliqué que ça. C'est comme une femme. Quand le coffre-fort a compris que vous l'avez compris, ça y est, elle s'abandonne, elle se relâche, etc. Donc, voilà, il travaillait presque scientifiquement. Hein. Il avait une méthode. Il ne voulait pas utiliser des armes à feu. Il était armé, mais il n'utilisait pas des armes à feu. Les travailleurs de la mort, les travailleurs de la nuit.
Un lapsus révélateur.
Oui, excusez-moi. Justement, voulait éviter toute confrontation comme ça. Alors, il repérait. Mais c'était une organisation qui a quand même couvert à peu près toutes les provinces en France, le nord de l'Italie, en Belgique. Et ça, c'était une grosse organisation.
Oui, ils utilisaient les moyens techniques de l'époque, le train. Voilà, sûr, c'est un peu comme Bono avec la voiture, quoi. Dire qu'ils utilisaient des méthodes supérieures à celles de la maréchaussée qui les poursuivait. Comme.
Alors, ce qu'ils choisissaient, c'était quand ils voyageaient, quand ils voyaient des paysages avec des usines et tout ça, disons, ça, c'est pas pour nous. Quand ils voyaient des villes bourgeoises, etc., ils avaient un système pour ne pas faire de mauvaises rencontres quand ils pénétraient au cours des cambriolages. Ils mettaient des scellés sur les maisons qu'ils repéraient. Pendant 2 ou 3 jours, si les scellés ne bougeaient pas, ils savaient, avec un tas d'autres petites choses, les toiles d'araignée, ceci, le ceci, ça, ils savaient que la maison n'était pas occupée. À ce moment-là, ils envoyaient un télégramme à Paris. Quand c'était signé du mot Roger, c'est que c'était une bonne affaire. Si c'était Georges, ça ne valait pas le coup de se déplacer. Et alors là, les travailleurs de la nuit arrivaient. Et,
ils opéraient.
Ils opéraient, tout simplement. Mais il y avait une autre règle, c'est que les artistes, les médecins, les littérateurs et tout ça, ils n'y touchaient pas.
Alors, raconte-nous l'histoire de la maison d'un
certain écrivain. Alors, justement, à Rochefort, un jour, une magnifique villa qui existe toujours, qui se visite, et il a des valises, complètement. Et puis, il y a des papiers qui traînent sur un bureau, et Jacob jette un coup d'œil, il s'aperçoit qu'ils sont chez Pierre Loti. Il a dit, allez, on remet tout en place. Et comme ils avaient cassé un carreau pour entrer, il met un petit mot en s'excusant d'avoir cassé le carreau. Donc, quand même, dans tout ça, il y a une certaine éthique, il y a une certaine élégance. C'est quand même pas mal, hein, monsieur Jacob. Alors, j'en parle pas dans le bouquin, mais dans le genre, c'est pas des petits cambriolages. Hein. Il est parti avec 2 tapisseries du XVIIe siècle de la cathédrale de Tours en passant par un vitrail. Hein, une nuit, c'est quand même pas les sacs à main des vieilles dames. Il est parti avec des coraux et des sisselets de la famille royale en Belgique. Ça représentait quand même de l'argent, hein. Et il passait pas par des resellers. Il faisait lui-même la fonderie des métaux. Enfin, il avait une petite organisation, pas lui personnellement, mais enfin, pour éviter justement de passer par des resellers. Donc c'était une magnifique organisation.
Voilà. Il préconisait d'ailleurs que ça se généralise. Il invitait les ouvriers quasiment à déserter les usines et à se faire voleur. toujours en disant que bon, vaut mieux être voleur que voler, quoi. Mais on peut faire une analogie avec un célèbre personnage de roman, le roman de Maurice Leblanc, le Arsène Lupin, gentleman cabrioleur, où on retrouve toute cette philosophie. Mais je crois que Maurice Leblanc a refusé soit de reconnaître, soit de...
Oui, il n'était pas... Mais même Jacob, ça ne l'amusait pas beaucoup, cette comparaison. Et une fois, dans une de ses lettres, il note qu'il a lu un peu Arsène Lupin et que c'est vraiment un amateur. Ça ne tient pas le coup, ces histoires. Mais il y a une certitude, c'est qu'il y a eu un procès très important. Ah oui, on nous tire dessus, ça y est. Il y a eu un procès très important où Maurice Leblanc était présent. Hein. Et avant ce procès, il n'avait jamais écrit un Arsène Lupin. Mais Jacob voulait pas beaucoup, il aimait pas beaucoup. D'ailleurs, moi, l'éditeur voulait le mettre au dos de la couverture. J'ai dit non, Jacob, il voulait pas. Ça lui plaisait pas beaucoup, ce parallèle.
Et puis, Maurice Leblanc ne voulait pas non plus reconnaître qu'il s'était servi de cette histoire. Quoi.
Absolument, oui.
Donc, voilà, c'est un peu occulté, sauf dans le People, quoi. Ou comme nous, on...
Ouais.
Voilà, parce que moi, j'aime bien Arsène Lupin.
moi, j'aime bien Maurice Leblanc, puis je vais le voir au moins 2-3 fois par mois, parce que j'habite à côté du cimetière Montparnasse, et c'est la tombe la plus proche de chez moi. C'est la tombe la plus proche. Il habite à moins de 100 mètres de chez moi.
Ah ouais, ouais.
Alors, de temps en temps, je passe et je lui dis salut.
C'est vrai. Voilà. C'est pas un voisin chiant, apparemment. Hein.
Non.
Bon. Pour clore le dossier Maurice Leblanc, voilà. Donc Jacob, il finit quand même par se faire pincer, il passe en justice, et les bourgeois qui le jugent, à mon avis, ne lui reconnaissent pas. Ça les fait pas rire. Oui, voilà,
ça les fait pas rire, mais lui, il les fait rire.
Oui, puisque dans le procès, il raconte procès, si t'as des trucs.
Je vais essayer de trouver, en feuilletant comme ça, deux, trois petits textes très courts. D'abord, on a oublié quelque chose dans les cambriolages, un détail, c'est que c'est l'inventeur du parapluie. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il y a des parapluies, après chaque chapitre, il y a un petit parapluie. Il prévient ses copains sur un cambriolage particulier qui est très au point. Je vais inaugurer quelque chose qui va peut-être un peu vous surprendre. Alors, c'est un cambriolage, ça s'appelle le grand cambriolage de la rue Quincampoix, peu importe. C'est un bijoutier, il loue un appartement au-dessus, il le meuble, il se présente bien, ils y habitent un petit peu pendant 3 semaines, ils savent que le bijoutier part dans sa maison en Normandie avec sa femme et ses enfants tous les samedis soirs, ils minutent tout ça, le jour où ils vont faire le casse, il y a un des cambrioleurs qui suit le coup pour être sûr qu'il prend le train à la gare Saint-Lazare, à la bonne heure, etc. Ils reviennent et le lendemain matin, ils commencent à lever d'abord les lattes de parquet, puis à faire un trou dans le plâtre, je ne sais pas comment ça s'appelle tout ça. Et quand le trou commence à une taille suffisante, ils glissent un parapluie et ils l'ouvrent. Et à ce moment-là, ils peuvent taper beaucoup plus franchement. Les gravats tombent dans le parapluie et ne font pas un boucan du diable. Oui, dans deux films. Mais depuis, moi, je suis un petit peu cinéphile. Impossible de me souvenir dans quel film. Je crois que c'est un film de Dassin, non ? Oui, c'est un truc dans ce genre-là. Mais vraiment, à chaque fois, quand on en parle, je m'en veux. Enfin, voilà. Bon. Alors, le procès. Le procès.
Par exemple, toute la presse. Le président, quand il dit vous avez été condamné à... C'est marrant.
Oui, tu veux que je dise ça. Alors attends, je sais
juste pour donner un peu comment ça se passe dans un procès. Il faut s'imaginer un peu.
Il y a le tout début qui est épatant. Parce que, grosso modo, c'est pas la société qui juge Jacob. C'est Jacob qui juge la société. C'est lui qui mène son procès. Hein. Voilà. Alors, là, on indique que la ville est vraiment assiégée parce qu'il faut se souvenir. 10 ans avant, c'était Ravachol, c'était les anarchistes qui faisaient péter un peu partout. Alors là, il y a la presse étrangère, et puis il y a l'armée, les flics et tout ça qui cernent la ville. Hein. C'est très important. Hein. Alors, oui, là, on lui explique. Alors, j'y arrive. Le président prend alors la parole pour la première fois. C'est au tout début. Hein. La ligne d'avant, c'est entre deux gendarmes, Jacob se penche vers son avocat. Le rideau se lève, la recette promet, la salle est comble, dit Jacob. Ça donne déjà le ton. Hein. Le président prend la parole pour la première fois. Jacob, levez-vous. Non, monsieur. Découvrez-vous alors. Vous êtes bien couvert, vous, répond Jacob qui garde son chapeau sur la tête. Murmure de réprobation dans la salle. Jacob, Alexandre Marius, est-ce bien votre identité ? Oh, les états civils, j'en ai 200, dont quelques-uns bien en règle. Votre adresse ? Je n'ai ni feu, ni lieu, ni âge, ni profession. Je suis vagabond, né à partout, chef-lieu de nulle part, département La Terre. Avez-vous des jurés à récuser ? Tout d'abord, une question. Est-ce que tous les jurés savent lire ? Mais probablement, la loi l'exige. Vous n'en êtes pas sûr ?
Probablement.
Ils n'ont pas à produire de certificat ? Vous n'êtes pas sûr, je constate, etc. etc. C'est le ton qui est donné constamment. Alors, il a bien sûr quelques apartés sur ses têtes de Turc, c'est-à-dire les militaires... Les magistrats, j'aimerais bien trouver les magistrats, parce que c'est quand même assez croquignolesque ce qu'ils racontent. Mais au hasard, comme ça, ah oui, là, il est déjà parti. On va y arriver. Pour le magistrat, je ne vais peut-être pas le retrouver, mais je le connais suffisamment bien pour pouvoir vous donner à peu près l'idée. Il cambriole encore un procureur ou un haut magistrat. Et il trouve chez ce procureur un mouchoir avec ses initiales. Il s'en empare, et puis, quelques mois après, il cambriole encore un très haut magistrat. Et pour signer son forfait, il laisse le mouchoir qu'il a piqué dans l'autre. Et pendant le procès, le président dit « Quand même, vous allez un peu fort avec la magistrature. » Dit « Non, 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 pas tellement, vous tombez mal. Ce sont des gens qui se donnent le droit de juger les autres. Ils devraient être absolument une conduite impeccable, irréprochable. » Je vais vous expliquer. Alors, il raconte l'histoire du mouchoir. Chez le second, j'ai laissé mon mouchoir pour signer mon forfait. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est un pauvre type, alors il donne le nom, monsieur Machin, qui a été arrêté pour ce forfait. Alors moi, je signe mon forfait et ça tombe sur un autre. Ça ne vaut vraiment pas le coup de signer ses œuvres avec votre histoire. Et je demande absolument à ce que ce monsieur soit libéré dans les meilleurs délais. Enfin, voilà, donc il se paye. Dit, mais quand même, la magistrature... Et oui, c'est vrai, j'ai un regret avec les magistrats de ne pas en avoir dévalisé davantage. Bon, c'est quand même un ton certainement dans les prétoires qu'on n'entend pas très souvent.
Hein. C'est un spectacle, quoi.
Pour les curés, vas-y, prends la parole, puis je vais essayer de trouver le curé.
C'est gentil. Ouais, non, mais bon, c'est vrai qu'il a été extraordinaire comme ça jusqu'au bout. C'est-à-dire que bon, il a été comme ça dans l'imagination de ses cambriolages. Genre, génial et en même temps soucieux de ne pas voler aux pauvres, soucieux de respecter l'outil de travail, bon, de respecter les intellectuels, etc. Il a toujours eu une éthique très, très forte. Et cette éthique-là, elle se retrouvait à tout moment, partout dans sa vie. C'est-à-dire que ce qu'on est en train d'évoquer là comme comportement au palais de justice, en fait, quand il sera condamné et envoyé au bagne, il aura la même éthique. Mais je pense que tu l'as retrouvé.
J'ai retrouvé mon ecclésiastique. T'es content, hein? Oui. Alors, un ecclésiastique s'avance à la barre. Là, on est toujours dans le prétoire, c'est le procès. Le président le fait jurer de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Vous pensez donc qu'il peut mentir, que vous lui faites prêter serment, interroge Jacob. Rire de l'assistance. L'abbé énumère le butin emporté par ses visiteurs. Ils ont pris deux ostensoirs, un calice en argent, un ciboire en vermeil que contenait le tabernacle. Ils ont vidé les troncs du perpétuel secours. J'ai trouvé sur l'autel inscrit sur un carton « Dieu Tout-Puissant, recherche ton calice ». Plaisanterie blasphématoire. « Allons, l'abbé, vous oubliez quelque chose ?» intervient Jacob. « Vous rappelez-vous ? Je vais vous aider. Derrière un tableau, des gravures d'un genre particulier, mettons le genre fragonard, pour employer une expression discrète. Rappelez-vous bien. » L'ecclésiastique furibard reste bouche bée. Jacob continue. Avec leur momerie, ces gens-là amassent des richesses incroyables. Je peux en parler en connaissance de cause. J'ai cambriolé assez de prêtres. Le président précise. J'ai la liste ici. 28 églises et cathédrales. Chez tous, j'ai trouvé un coffre-fort et quelquefois plusieurs. Il ne renfermait pas de hare en sort. Je vous prie de le croire. Et voilà les charlatans qui osent m'appeler voleur et qui m'accusent. Mais je suis bon prince, je ne leur en veux pas, je leur donne ma bénédiction, ainsi soit-il. Alors je me suis permis quand même, puisque j'avais à faire des dessins, vous verrez si vous regardez, il y a un dessin avec les ostensoirs, les calices, et puis deux, trois gravures un petit peu légères. Voilà, il faut quand même, quand on se donne le plaisir de faire ça, on ne peut pas passer à côté de ça. Voilà. Bon, ça c'est le procès. Alors, il y a beaucoup de choses, hein, que, bien sûr, je ne suis pas là pour lire le livre. Alors, il y a, à la fin, sa tirade qui fait quand même 2,5 pages, hein, où il explique qu'effectivement, il préfère être voleur que voler. Et puis après, bon, c'est la direction, le bagne. Hein. Il y passe à côté de la guillotine et il se retrouve au bagne. Et il découvre, à sa façon, cet univers. Hein. C'est-à-dire que il y a des caïds qui font régner leur ordre, leur règlement, etc., à coups de couteau, à coups de ceci, à coups de cela. Lui, il s'impose justement par sa placidité, il ne se laisse pas faire du tout, mais il trouve sa place qu'il fait respecter, voilà, tout simplement. Et il va y passer 20 ans.
Hein, c'est enfin, il n'oublie rien, parce que bon, quand il était, avant d'être emmené au bagne, il y avait un mec qui lui avait craché dans sa soupe.
Ça se fait pas.
Ça se fait pas, il l'a retrouvé un peu plus tard.
Oui, ça c'était, ils n'étaient pas encore au bagne, enfin peu importe, hein, ils étaient à
l'île de Ré, non ?
Oui. Et pour la soupe, il y a un surveillant qui crachait dans toutes les soupes, et Jacob n'a pas réagi. Il s'est bien lui en a pris, parce qu'il y avait un jeune qui passait derrière lui en crachant la soupe. Il a balancé le truc sur la gueule du surveillant. Et il y a immédiatement trois oiseaux qui l'ont passé à tabac très sérieusement. Il se trouve que au bagne, alors qu'il est seul, ce qui est très très rare qu'il soit seul, et il est convalescent. Donc on lui a laissé une demi-journée comme ça par erreur. Et il tombe il reconnaît le gars en question. Il lui saute dessus. Et il l'estourbit, il le tue et il le balance au requin. Là-bas, c'est au bagne, il n'y a pas de cimetière. Hein.
Non.
Tous les bagnards finissent dans un linceul le plus simple possible et sont balancés à la mer. Et ce sont les requins qui se chargent des obsèques. Il y a un paragraphe qui s'appelle « Là où les requins font la police ». C'est une citation d'Albert Londres. Albert Londres a écrit une chanson, indépendamment, qui s'est mouillé énormément en faveur du bagne, pour le faire fermer. Il a écrit une chanson qui a été chantée dans les music halls sur le bagne, et il y a la phrase « Là où les requins font la police ».
Oui. Il avait rencontré d'ailleurs Jacob.
Il a rencontré Jacob, mais on sait qu'il l'a rencontré, mais on n'a aucune trace, on n'a pas un mot, on n'a rien du tout. Mais il est allé voir sa mère, Albert Londres est allé voir la mère de Jacob à son retour à Paris, et il est intervenu par des courriers auprès
oui, parce qu'il était en... Moi, c'est dans d'autres livres sur le bagne. En fait, il était en cage... Hein, c'est des espèces de prisons où il n'y a que le truc.
Alors ça, c'est quand. Oui, voilà. ça c'est.
Ils ne peuvent pas s'asseoir.
Oui. Ouais. Non, mais ça s'appelle. Je vais le trouver tout de suite. Ouais, c'est une réclusion particulière où là, il faut vraiment avoir fait ses preuves. Hein. Voilà, réclusion cellulaire. Hein. Il en fait 44 mois. Et en général. Il le dit d'ailleurs, Jacob.
Oui, il sortait pas vivant maintenant.
Oui, il sortait pas vivant. Hein, s'il en prenait 10. Bah, lui, il dit si c'est 2 ans, je peux m'en tirer, mais si c'est 5 ans, il n'y a aucune chance. Mmh. Alors, c'était quand même un bagnard un peu particulier, puisqu'il a fait, ça se dit plus du tout, il a fait son droit, enfin, il a fait du droit. Mmh. À un tel point qu'il a été 7 fois traîné devant les tribunaux. De cette administration, d'administration pénitentiaire. Il a gagné 6 fois. Une seule fois, il a été condamné. Et une fois, c'est allé jusqu'à la Cour de cassation à Paris, et c'est lui qui a gagné. Il n'avait pas d'avocat, c'est lui-même qui... voilà. Et il y a pas mal de témoignages, dont celui de Dieudonné. Ça vous dit peut-être quelque chose.
Dieudonné,
la bande à Bonneau, etc. Ils se sont rencontrés, ils ont même eu un projet d'évasion en commun. Et Dieudonné dit que Jacob a beaucoup aidé les autres, ses collègues, si on peut appeler ça collègues, et pour écourter les peines, pour les aider, etc., etc. Voilà, c'était d'autres anecdotes. Il y en a qui sont très sévères, mais on va y venir. Une anecdote plus charmante. Le tabac était très rare. Hein. Alors il y a un bagnard qui vient voir Jacob en disant tu n'auras pas une combine pour m'avoir du tabac. Oh, bah, d'ici, ça peut se faire, ça. tu n'as qu'à raconter que je cache des armes dans ma case. Ben oui, mais tu vas avoir des emmerdements. Mais toi, tu ne te casses pas la tête pour ça. Alors, il glisse une lame avec un manche qui servait à faire des espadrilles sous son toit. Et le lendemain matin, il y a un surveillant en chef qui arrive avec une arme, ce qui était très rare hein, de voir comme ça. Alors Jacob dit, vous êtes armé, vous me faites peur, qu'est-ce qui se passe? Alors il fait fouiller tout le truc, et bien sûr, il trouve la lame, etc. Oh, alors Jacob dit, alors ça c'est vraiment, on m'en veut, parce que ça c'est bien sûr, c'est pas moi qui ai caché ça si mal, c'est quelqu'un Bon, alors, il avait déjà tellement d'affaires sur le dos que le surveillant laisse passer. Il dit, bon, d'accord. Et il récompense le gars de qui est le délateur de 5 paquets de tabac. Il en offre un à Jacob et puis le gars, il est content. Voilà. Donc, il y a des petites combines comme ça. Pendant un moment, quand il passait en justice, c'était sur le continent. Hein, c'était à Cayenne. Et là, c'était impossible, pratiquement impossible de s'échapper des îles, des saluts. Il y avait très peu d'évasion. C'était soit la jungle où on s'en sortait jamais, soit la navigation, on s'en vasait, on était ramené. Bon, donc, mais de Cayenne, ils y allaient en bateau, hein, un petit bateau à moteur, je suppose, à vapeur. Et Jacob pensait qu'avec un ou deux revolvers, il pouvait se rendre maître au retour de l'équipage et se tirer vers le Brésil. Alors, un jour, il reçoit deux boîtes de langoustines. Bon, il est très content, mais l'administration se méfie de ce Jacob. Alors, il lui demande de venir et de s'expliquer sur cet envoi de langoustine, parce qu'on n'arrive pas à voir d'où ça vient. Le nom est effacé. C'est votre mère qui vous envoie des langoustines? Ah non, je suis pas au courant du tout. Bon, on va les ouvrir. Il dit, bah non, vous n'allez pas ouvrir ma boîte de langoustine. Je ne vais pas les manger tout de suite. Peut-être que je les mange dans un mois. Vous les mangerez quand vous voudrez, mais on va les ouvrir. Et dedans, il y avait deux revolvers en pièces détachées. Oui, le poids. Oui, c'est ça. Oui. Et quand même, le directeur du banque dit, mais vous savez quand même qu'il est interdit d'avoir des armes ou qu'on vous envoie des armes. Il dit, si je le sais, mais bien entendu. Mais je ne peux pas empêcher des gens de m'en envoyer. Je ne sais pas d'où viennent ces armes, vous comprenez? Puis d'ailleurs, je me demande bien si ce n'est pas vous qui avez monté cette affaire-là pour me mettre dans l'embarras. Ah, alors, il laisse tomber, bien sûr. Il regrette, il dit, moi, je me faisais une fête de manger ces langoustines. Alors là, vraiment, voilà. Donc, il y a un tas de petites choses comme ça. Des choses beaucoup plus graves. Je ne sais pas si on va aller là, jusque-là, mais...
Hein. Parce qu'on ne va pas tout leur dire quand même, peut-être. Parce
non,
que sinon,
non,
ils vont...
non, mais pour donner un peu le ton. Pour donner un peu le ton, il y a... Si, celle-ci, ça met en appétit. Hein. J'ai vu qu'on allait boire un coup après, oui, etc. Oui. Alors ça met en appétit. Alors qu'on balançait un bagnard à la mer, il y avait des surveillants qui étaient sur le bord sur la côte et qui riaient aux éclats. Ils trouvaient ça vraiment très drôle. Et deux autres, pas Jacob, mais deux autres zozos l'ont pris très mal. Il y en avait un qui était à la cuisine et un autre qui était à l'infirmerie. Alors, ils ont mis au point un système, c'est-à-dire qu'il y avait quand même à peu près 600 bagnards, donc il y avait beaucoup d'abattage, et c'était des bovins hein, qu'il y avait sur l'île. Et alors, quand il y avait un bagnard qui décédait le même jour qu'on abattait un bovin, ils échangeaient les cervelles, c'est-à-dire qu'ils donnaient à manger à l'administration la cervelle des bagnards. Voilà, c'est tout. Je n'aurai pas d'autres.
Bon appétit. Et le reste, c'est de l'inventaire.
Je ne crois pas. Du moins, je ne l'ai pas noté, mais je ne crois pas. C'est ce qu'ont rapporté les deux bagnards. Et Jacob a été mis dans la combine. Enfin, lui, il n'est pas participé. Mais enfin, il savait. Et voilà, il donnait ça même aux femmes enceintes, des officiers, etc. Enfin, bon, c'était épatant. Voilà. Voilà sans doute. C'est le départ.
Ouais. Bon, ensuite, donc, bon, il y a eu toute une... Il s'évade. Hein, il y a une campagne.
Non, il s'évade pas.
Non, il y a une campagne pour le.
Ah oui, mais il s'évade pas. Il
rate l'évasion.
Il est gracié, ouais. Hein, en disant sa peine est commuée en 5 ans de prison en France. Et il écrit à sa mère : ça a l'air de te mettre en joie. Qu'est-ce que tu veux que je foute 5 ans dans une cellule, dans un climat pratiquement polaire. Lui, il est de Marseille et il était sous les tropiques. Alors, il traîne les pieds, mais enfin, quand il arrive, il n'est pas en très bon état. Et des 5 ans, c'est comme muet encore en 2 ans. Voilà. Et ensuite, il est reçu par les Anards à Paris. Hein, il y a des pages émouvantes. Et puis, il se met à travailler, mais à Paris, ça ne lui plaît pas. D'abord, ça a beaucoup changé. Lui, il n'a pas changé en 20 ans, mais Paris a beaucoup changé. Hein, métro, les voitures automobiles, ça lui plaît pas beaucoup. Alors, il décide de faire les marchés au bord de la Loire. Alors, il vend de la lingerie féminine ou masculine, hein, des chaussettes, des corsages. Et puis, un jour, il y a un client qui vient le voir en lui demandant si on ne peut pas lui faire un prix. Et Jacob le reconnaît. Il dit, mais vous avez pris du galon. Il dit, pardon. Bah oui, vous êtes quoi? Alors l'autre lui donne le grade. Il dit, vous ne me reconnaissez pas, Jacob. Jacob, vous qui m'avez tiré dessus. Il avait eu une algarade avec un flic et il lui avait tiré dessus. Il l'avait juste blessé un peu, mais enfin, voilà. Et Jacob lui dit, mais dites-moi, s'il y a quelqu'un qui doit quelque chose à... Vous me devez votre grade. Vous avez un bel uniforme, etc. Alors le gars, il a payé, pris fort ses deux chemises et puis part en bougonnant. Enfin voilà, c'est un petit clin d'œil de rien du tout, mais c'est quand même aimable.
Mais jusqu'à la fin de sa vie, il aura été quand même hors norme.
Oui, bien sûr. Il n'a pas bougé. Il a toujours la même. Il a un chien qui a 14 ans, qui est aveugle, qui est perclus de rhumatisme et tout ça. Il fait une demande de Légion d'honneur pour son chien parce qu'il est d'une fidélité, d'une probité absolument extraordinaire. Il réécrit à l'administration en disant « j'ai pas eu de réponse pour ma demande de Légion d'honneur pour mon chien, qu'est-ce qui se passe ?» etc. Bon, et la fin, quand même, on aborde un peu la fin.
Il est amoureux.
Ah oui, bon, c'est une histoire bouleversante.
Bon, on ne la raconte pas, histoire d'amour, peut-être, juste pour...
Non, alors, hein. si vous lisez le bouquin, vous le découvrirez. Elle prend 6 ou 7 pages, et c'est là où tout le monde pleure. Ouais, mais c'est une très belle page.
Ouais.
Ouais, alors, donc, si vous n'êtes pas au Kleenex, on ne raconte pas la
fin. Si, mais on peut raconter après, on laisse cet épisode-là, peut-être. Parce que, bon, c'est quand même un feignant, il étend pas son linge...
Ah bah oui, bah alors on le raconte ou on le raconte pas alors.
on le laisse comme ça.
Je laisse faire.
Non, mais on
le laisse. Très bien à quel moment. Bon, on arrête.
Non,
là.
Mais moi je pense qu'il faut arrêter là. Je pense que il a une fin extraordinaire. D'ailleurs, il soulève un problème qui est un problème de notre époque. Hein, la question se pose. Il y a des bouquins qui sortent sur cette façon de concevoir la vie. Voilà, donc ça. Voilà, mais on va pas tout. Mais disons que c'est à la hauteur.
Il est formidable.
Hein, c'est à la hauteur de tout ce qu'on vous a raconté sur le livre.
C'est même, d'après moi, c'est même encore plus fort et plus beau.
Oui. On peut aller jusque-là. Il a raison, Jacques.
Oui. Si j'ai choisi ça, hein, comme maintenant vous savez que c'était pour faire un scénario, c'est aussi parce que quand vous. Pour la première fois, vous êtes en train de lire l'autre bouquin là. Et dit, mais comment ça va se finir cette histoire-là? Ça peut se finir que très mal. Enfin, ça va pas. Il va partir, il va être forain sur un marché, puis voilà, il va enterrer sa mère, ce qu'il fait d'ailleurs. Et puis, non, pas du tout. Il a trouvé une façon, un raccourci, une façon de chemin de traverse qui est assez étonnante.
Mais on en a quelques-uns à disposition sur la table de presse, donc vous pouvez y aller.
Je vais vous laisser.
Et puis même, de toute façon, pour ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter le livre, de toute façon, il est à la bibliothèque sociale. Nous, au groupe Kropotkine, on tient à ne pas mettre en vente de livres qui ne sont pas disponibles à la bibliothèque sociale. Tout le monde...
Hein ? Ah ben ça, c'est, ah, c'est non, celui-là, ça s'impose.
Ouais, ouais. C'est sûr.
Non, ben bien sûr. Non, puis vous mettez un petit mot, signé Attila, comme il faisait, comme Jacob faisait.
Oui, trompe la mort, c'est le même. Voilà. Bon, sinon, on pourrait revenir un petit sur un petit épisode qui, on va quitter un peu Marius Jacob. Et vous avez des points en commun avec Michel. Tous les gens qui ont regardé un petit peu sur le site du groupe Kropotkine, ils ont vu qu'un certain 18 juin 2011, devant la préfecture de police de Paris, vous y étiez.
Oh, ça m'étonnerait.
Ah ben, on a la preuve.
On va revenir à ça. Mais je vais vous dire, comme je suis très prévoyant, ma femme voulait aller à la manifestation au château de Vincennes de Hollande.
Alors, Hollande, qui c'est Hollande ?
Oui, alors, donc, ça suffit. Donc, moi... Pour être aimable avec elle, j'ai dit, bon, ben, je t'accompagne, mais je te préviens, je porte des lunettes noires. Je ne veux pas être photographié dans cette masse, dans cette foule, etc. Donc, je suis allé avec des lunettes noires. Alors, ça m'étonnerait que vous ayez des documents de moi en train de chanter devant la préfecture de police.
Tout à fait, on les a. On les a. On les a et on les a même un petit peu après, où tu es cerné par des bleus marines. Et où là, déjà, tu chantes moins, parce que dans les premiers documents qu'on a, tu chantes Brassens, je crois, d'ailleurs.
La mauvaise réputation.
Oui.
Bon, c'était ça, non ?
Oui, oui. Voilà. C'était ça.
Oui, alors après ça, je me retrouve là-dessus, Jacques, donc moi, président de l'association des amis de Georges Brassens. J'ai jamais été président de quoi que ce soit. Je ne connais même pas cette association. Je ne sais pas d'où ça sort, ça.
Moi non plus. C'est extraordinaire, on a découvert ça après. Alors, c'est une association de fête qui regroupait quand même des gens qui se sont, pour le coup, là, regroupés devant un préfecture de police. Une association de fête, elle n'a jamais été déclarée nulle part.
Ça, j'en sais rien, voilà. J'ai découvert ça en lisant ça, voilà. Que j'étais président de quelque chose.
Bah oui, mais nous.
Non, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'été dernier, il y a eu un gars, je crois que c'était à Rennes, qui, du haut de son balcon, a chanté Hécatombe de Brassens au passage de deux flics qui étaient dans la rue. Et ils l'ont interpellé et il a été condamné à faire des travaux
d'intérêt général.
D'intérêt général. C'est quand même, moi, ça m'a un peu surpris. Alors, il y a eu un groupe à près de 19 personnes à Toulouse, les Canailles du Midi. Hein, le groupe s'appelait les Canailles du Midi.
C'est une autre association qui n'existe pas, ça se trouve.
Oui, bah là, peu importe. Qui, à la suite de ça, ont décidé d'aller chanter Hécatombe devant la préfecture de police de Toulouse. Ils ont été interpellés, ils ont été filmés, ils ont été, etc., etc. J'ai été très, très, très surpris. Je sais pas, quand même, dans quel pays bon, donc... Moi, j'ai demandé à Daniel Mermec et un copain de me faire une petite place sur son répondeur, où j'ai encouragé les gens à venir à telle date, c'était un samedi, hein, de venir chanter Hécatombe devant la préfecture de police à Paris. Et j'ai eu aussi droit à une petite 2 minutes sur Radio Libertaire. Une excellente radio. voilà, c'est tout. Et on s'est retrouvés. Alors, un copain... C'est que tu connais bien ou que ici vous le connaissez bien, puisqu'il est venu Bertrand Roté, qui faisait partie qui est un copain, m'appelle une heure avant, dit, dis donc, on va pas être tout seul là, il y a 6 quarts de CRS. J'étais sûr que c'est pour nous. Mais oui, parce que j'étais sur le banc à côté des deux officiers, et j'ai compris que c'était pour nous. Bon, on s'en fout, on va bien aller voir. Hein. Donc nous sommes allés. On a chanté Hécatombe. Alors, tous les gars étaient assez loin. Hein. Mais enfin, ils étaient harnachés comme pour... Bon. Et alors moi, comme un idiot, j'avais une veste blanche. Donc, j'étais le plus repérable. Et puis, j'étais venu avec des chansons que je distribuais. Donc, le commissaire qui dirigeait tout ça est venu vers moi. Il s'est présenté, commissaire machin. Et bon, maintenant, il faut vous disperser. Hein, parce que, bah, je dis, mais non, mais on chante une chanson de Brassens. Il y a actuellement une exposition Brassens à la Villette. Brassens ou la Liberté. Hein. Alors, vous ne pouvez pas... Non, non, vous n'avez pas demandé l'autorisation, c'est une manifestation chez nous, c'est une chansonnette, c'est une chanson. Alors, si vous ne vous dispersez pas, nous, on va s'en occuper. Alors, il y avait quoi, une quarantaine de personnes?
Oui.
Ouais.
Une soixantaine, oui. Ouais.
Donc, je me suis retourné vers les gens que je ne connaissais pas. Il y a quelques-uns, il y a quelques copains. Je dis, ce qu'on vient de faire, c'est une répétition. Maintenant, on va chanter ça, mais au poil. Et on a chanté une deuxième fois, Hécatombe. Et à ce moment-là, tous les CRS se sont mis épaule contre épaule et nous ont entourés et nous ont amenés vers la station de métro Cité.
Tout en nous disant qu'il fallait qu'on se disperse.
Oui, qu'on se disperse. Mais nous
ont ordre dit, paradoxal.
On ne pouvait plus ressortir, etc. Voilà. Voilà. Et il y en a, oui, un peu violemment, curieusement, il y en a trois. Il y en a un monsieur qui avait une tête... tout à fait vénérable, avec une belle barbe blanche et tout ça, qui s'est fait maltraiter. Lui, il est tombé dans l'escalier, on l'a sorti en lui tirant les oreilles, etc. Ce qui n'était vraiment pas indispensable. 24 heures de garde à vue, c'est quand même pas rien, la garde à vue dans un commissariat de police, c'est vraiment épouvantable. Et alors, ils en ont attrapé trois, et bizarrement, au commissariat, il n'y en avait plus que deux. Et il y en a un qui avait une bombe lacrymogène dont il s'était un petit peu servi.
Plus un couteau.
Plus un couteau. Et après, il y a eu un jugement. J'y suis allé, bien entendu, puisque c'était la moindre des choses. Le gars n'était pas là. Celui-là, il a disparu. Donc, c'était un flic qui était... Bon,
mais Michel du groupe Kropotkine, qui est ici aussi aujourd'hui, finalement, l'a rencontré au commissariat. Il était beaucoup plus libre que les autres. Les autres qui...
Ouais. Ah oui, tu as un autre écho sur cet oiseau-là ?
Bon, tu parles dans le... Non, non. Oui, parce que bon, c'est un peu bizarre quand même.
En fait, ce personnage-là, qui était... En plus, on aurait pu penser qu'il aurait pu être un peu plus malmené que nous, connaissant la police, puisque il était un peu basané, un peu pakistanais. Donc, c'est pas un souhait de ma part, mais c'est des fois des choses qu'on voit, hélas. Et quand moi, j'ai été interrogé par un... Enfin, pas avant l'interrogatoire.
Ah ouais, je pensais que vous avez été séparés dès le départ. Non, pas tout à fait.
Mais moi je l'ai... On a été plus ou moins rassemblés quand même. Lui, il était un petit peu plus loin que nous, sur le même banc, enfin sur le banc juste à l'angle d'un couloir qui faisait suite. Et quand on m'a signifié ce qu'on me reprochait avant qu'on m'interroge par un inspecteur, lui était sur le bureau d'à côté, mais lui on l'avait démenotté. Alors je me suis dit, pour un mec qui avait un couteau qui a été désarmé malgré tout, parce que moi j'ai vu, quand j'étais plaqué au sol, j'ai vu le couteau tournoyer qui avait été jeté et qui avait une bombe lacrymogène, je trouvais ça un peu bizarre que moi qui n'avais pas d'arme, je continuais à avoir les menottes. Et alors que lui était beaucoup plus, moi, il était pas du tout entravé, quoi. Et je sais pas s'il l'avait été au départ d'ailleurs, mais donc voilà, quoi. Après, et quand j'en ai parlé à l'avocat, enfin l'avocat a dit tout de suite, lui, ça doit être un indice. Alors j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Il dit, vaut mieux pas en parler. Voilà. C'est ça, soldé comme ça, parce que si on mettait ça dans le procès, ça risquait de pour lui de compliquer les choses.
Moi, l'analyse que je fais de cette situation-là, c'est que dans les mesures où ça commençait à se généraliser un peu en France, Toulouse, il y avait eu aussi Marseille, je crois, et puis Paris, je pense qu'il craignait
une
épidémie. Et le fait que la Fédération anarchiste est appelée officiellement à cette manifestation, j'ai l'impression qu'ils se sont dit, bon, voilà, il va y avoir une bande du berlu de jeunes qui vont venir, trucs comme ça. Et le projet, c'était de, à mon avis, c'est l'analyse que je fais, c'était de radicaliser cette manifestation pour qu'il y ait des incidents de façon à pouvoir décrédibiliser la manifestation. Parce qu'on était filmés sous trois angles différents alors qu'on n'était qu'une quarantaine. Il pleuvait, c'était vraiment... Il y a eu à aucun moment, d'ailleurs, de notre côté, comme on a tout filmé aussi, et d'ailleurs pour les gens qui veulent voir, c'est sur le site du groupe Kropotkine, on voit qu'à aucun moment, il y a eu de la violence de la part des manifestants. Or, la violence, elle est venue bon, que du gars avec le couteau et lacrymogène qui, moi, je vois ça très bien comme provocation de façon à radicaliser, qu'il y ait une bagarre. Et après, comme ils filment et trucs comme ça, ils font dire ce qu'ils veulent aux documents. Et ça n'a pas marché. Et d'ailleurs, le premier procès, la première date qui avait été donnée, c'était le 30 septembre. Et comme ils ont vu, à mon avis, c'est toujours l'analyse que je fais, que sur le net, on avait envoyé...
30 août.
Hein?
30 août. 30 août. Qui a été reporté après.
Non, 30 septembre, et ça a été reporté au 30 août. 30 septembre.
Non, c'est le contraire.
Oui, c'était, non, c'était 30 septembre. Et quand ils ont vu qu'on avait tout balancé sur le net, très vite, la date a été reportée au 30 août, c'est-à-dire en pleine vacances. Il y avait un moyen de faire passer ça. C'était d'abord 30 septembre. Juste après, ça a été mis 30 août. Et le 30 août, moi, je pense que c'était fait pour étouffer ce truc-là parce que c'est une affaire foireuse qui n'avait pas marché. Et du fait de la mobilisation, du fait que bon, on avait foutu sur le net les photos où manifestement c'est les CRS qui brutalisaient les gens. On a bien filmé en train de tordre les oreilles de plusieurs personnes et tout. Et du coup, ça a été mis au 30 août pour que le procès ait lieu en pleine période où il n'y a personne. Manque de peau, c'est très rare. Il y a eu un incident de justice. La juge n'était pas présente. Du coup, ça a été reporté au 13 décembre, c'est ça, je crois, ou un truc comme ça, je ne suis plus sûr, mais au mois de décembre, et où le procès a pu avoir lieu, et où même le procureur... c'est le procureur... Oui, la procureure a dit bon, ben, qu'au vu des dépositions des Pandores, elle ne pouvait pas poursuivre. Quoi, parce que bon, c'est vrai que c'était en pleine contradiction. Il y avait des choses qui n'étaient pas possibles. Donc, manifestement, d'ailleurs, ça pose le problème en justice, hein, que des personnes qui sont détenteurs de faire représenter l'ordre public puissent faire des faux témoignages et que ça reste là. Hein. Mais en tout cas, bon, voilà, il y a eu au bénéfice du doute. Hein, mais voilà, bon, mais n'empêche que les frais ont été payés quand même par les gens qui se sont fait arrêter, quoi. Voilà le scénario, comment je le vois, d'où la disparition du provocateur. Voilà, bon, donc il reste que bon, ça a quand même mis un frein, puisque de toute façon, je ne me rappelle pas avoir eu d'autres manifestations pour chanter. Hécatombe devant les... Oui, mais ça serait peut-être mieux que tu nous dises ça dans le micro, parce que tu vas avoir une réponse alors qu'on n'aura pas la question.
Oui, voilà, je trouve ça un peu fou de se retrouver en chantant Brassens devant les Bleus, quoi.
Absolument.
Je trouve ça un peu... Enfin, c'est complètement le monde à l'envers, quoi.
Comme vous avez compris, c'est moi qui tirais les ficelles. Et c'est moi qui en ai eu tout le bénéfice, puisqu'à l'arrivée, je me retrouve président de l'association des amis de Georges Brassens. C'est assez clair, non ?
Bien sûr. Et ça, c'est dans les dossiers de la police. Et à mon avis, t'as pas fini d'en chier. Bon, et bien, sur ces... sur ces paroles de bienvenue, il faut quand même qu'il y ait un peu de responsabilité quelque part. On remercie Jacques d'avoir accepté de venir devant une salle comble. On essaiera de mettre encore plus de chaises et de bancs la prochaine fois pour qu'on soit moins serré. Et puis on va peut-être boire un coup ensemble. Hein, et puis
on n'est pas à l'abri de ça.
Oui, j'avais des questions. Il n'y a personne qui veut boire un coup ? Bon, alors, voilà.
Moi, j'ai juste une question. C'est est-ce que Jacques t'en sait un peu plus sur son état de santé ? Enfin, là, quand il revient du bagne, parce qu'il est quand même vachement esquinté, s'il bénéficie des conseils d'un médecin ou s'il a une thérapie particulière pour se remettre, parce que moi je le vois tellement délabré, enfin un peu comme les gens qu'on a envoyés dans les camps de la mort là, oui. Avec les nazis, et on a l'impression qu'il remonte la pente. Alors soit c'était quelqu'un qui avait une forte constitution ou une très bonne santé à la base et qui peut se reconstituer, ou alors enfin, voilà, ça paraît, moi ça m'a paru un peu miraculeux, quoi.
Oui, mais je pense que c'est ton explication, ton interrogation est juste, mais je crois qu'il avait une santé assez robuste, parce tout simplement parmi les gens qu'il fréquente dans sa vie au bord de la Loire, il a un toubib. Et il n'est jamais question, une seule fois, de traitement, de ceci ou cela. Le seul, quand il veut être peinard chez lui, pour écrire, répondre des courriers, des trucs comme ça, il a un petit écriteau et qu'il met à l'extérieur, Jacob à la rage. C'est à peu près la seule indication que j'ai sur son état de santé. Non, je crois que c'est effectivement, tu vois. La fin, il parle de sa santé justement à la fin, elle n'est pas mauvaise.
Ouais. Mais bon, déjà quand, après les 2 ans, là dans sa cellule, il en parle là, comment il se remet
difficilement. Quand il sort du bagne, c'est de la lutte, bien sûr. Ouais. Il est porté, hein, ouais. Il est pratiquement incapable de marcher. Ouais. Voilà.
Eh bien, pour se remettre, je propose qu'on prenne un petit apéro ensemble et qu'on grignote, hein, n'est-ce pas ? Bon, ben voilà, donc merci, à la prochaine, donc au 10 mai.